VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 6 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara met fin à des mois de suspense. Il ne sera pas candidat à un troisième mandat.
La France autorise l'extradition de François Compaoré, frère du président déchu Blaise Compaoré, vers le Burkina Faso, en rapport avec l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo.
Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle la Guinée-Bissau à respecter le cadre constitutionnel pour régler la crise post-électorale et institutionnelle.
École fermée pour 300 millions d'élèves alors que les mesures préventives se renforcent dans le monde pour combattre le nouveau coronavirus.
En Syrie, entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu annoncé par la Turquie et la Russie dans le Nord-Ouest.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'il n'allait pas briguer un autre mandat en octobre 2020. Il entend laisser l'image d'un bâtisseur qui a pacifié la Côte d'Ivoire. « Je n'ai certainement pas tout réussi, mais les résultats sont là », a affirmé M. Ouattara hier devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès à Yamoussoukro. Qui pourrait être le prochain porte-drapeau du RHDP, le parti de M. Ouattara? Idriss Fall a joint Arthur Banga, professeur d'histoire à l'université d'Abidjan.
Il faut quand même saluer l'acte du président Alassane Ouattara. Il avait dit, mais c'est jamais simple. Certains encore doutaient. Donc c'est déjà un geste qui va lui permettre de rentrer encore plus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. À sa place, certains auraient pu justifier la nouvelle République que vous se représentez. Finalement, il a décidé de ne pas se représenter. C'est déjà un exemple et un acte à saluer.
Qui est-ce qui est le mieux placé pour le remplacer au sein du RHDP?
Naturellement, tous les regards seront braqués sur le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est d'abord le premier ministre. Administrativement, le mieux placé dans la hiérarchie au sein du RHDP, premier vice-président du RHDP. Donc, logiquement, c'est vers lui que tous les regards vont se tourner. Et je pense que depuis quelques mois, il est assez actif, prépare les esprits quand même à ce personnage. Mais jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la convention, il peut y avoir toujours des changements. Il y a des outsiders qui sont assez bien positionnés. On peut penser au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui est lui aussi du RHDP. On peut penser à quelques gens qui sont venus du PDC-RDA, notamment Patrick Hachi ou Jeannot Ahoussou-Kouadio, le président du Sénat. Et de plus en plus, on parle de la rumeur Marcela Montano, le ministre des Affaires étrangères, mais malgré tout, celui qui reste, à mon avis, en pole position pour l'instant, c'est bel et bien Amadou Gon Coulibaly.
Arthur Banga, professeur d'histoire à l'université d'Abidjan.
Et à Boaké, la décision du président Ouattara a été diversement accueillie. Quelques réactions recueillies dans les rues de la ville par notre correspondante Aïcha Diarra.
S'il décide de ne pas se présenter pour un troisième mandat, je suppose que ce monsieur veut la paix. Donc, que gloire soit rendue à l'Éternel, tout ce que Dieu fait est bon, c'est tout.
Il suffit qu'il nous montre quelqu'un qui veut faire comme lui, il n'y a pas de problème. Voilà, vraiment, le gérer le pays, ça nous plaît beaucoup.
Nous, on ne voit pas qui d'autre peut être candidat. Donc, s'il n'est pas candidat, vraiment, ça nous arrange pas.
Au moins, il a tenu à sa parole. C'est bien, c'est un homme de parole.
C'est bien, tout en souhaitant que la nouvelle génération réussisse ce que le président Alassane a laissé en cours.
À moi, ça me plaît pas. Parce que moi, c'est lui, moi, je veux comme candidat. Parce que c'est lui à qui, moi, j'ai confiance pour diriger le pays. Donc, je veux qu'il se représente.
Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, que Alassane soit candidat. Nous, on veut la candidature d'Alassane pour assurer la sécurité des Ivoiriens.
Alors, vraiment, moi, il est fusillé beaucoup, quoi. Vraiment, c'est un homme démocrate, quoi. Quand il dit son parole, vraiment, il suit son parole. Vraiment, il le félicite. Celui qui va venir, sa place, il n'a qu'à faire le bon travail, comme lui aussi.
Pourquoi? On ne comprend pas. Et puis bon, ce qu'il a commencé là, qui va terminer? Et puis, il y a qui a venu s'asseoir? Ah, vraiment, il nous a mis dans le problème, hein. Il nous a ramené la paix. C'est le seul individu, hein, à qui on a commis beaucoup, beaucoup d'atrocités. Pour qui les gens voulaient se venger. Et il a dit à ces gens-là, pas de vengeance.
Je veux qu'Alassane soit président, parce que s'il est président, depuis là, si on est bien. Ça va chez nous. S'il n'est pas candidat, là, c'est pas la peine. Je ne supporte plus quelqu'un.
Et en France, le président Emmanuel Macron a salué dans un tweet ce qu'il a appelé la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, ajoutant « Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple ». Au cours de la visite de M. Macron à Abidjan en décembre, la question du contexte délicat de la prochaine élection présidentielle avait été évoquée et le président français s'était déclaré confiant dans la volonté et la capacité du peuple ivoirien à franchir dans la paix cette étape importante pour la démocratie ivoirienne.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier la Guinée-Bissau à respecter le cadre constitutionnel pour régler la crise post-électorale au lendemain d'une réunion à huis clos tenue à l'initiative du Niger. Le point avec John Lyndon.
Les membres du Conseil de sécurité expriment leurs profondes préoccupations et appellent les partis à respecter le cadre légal et constitutionnel pour régler la crise. Ils leur demandent de privilégier le dialogue et une résolution pacifique de la crise et s'abstenir de toute action ou déclaration qui pourrait exacerber les tensions. Le Conseil de sécurité a par ailleurs demandé à la CDAO d'envoyer au plus vite une mission de haut niveau en Guinée-Bissau afin d'aider à résoudre la crise. Mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait aussi fait part de son inquiétude face à la situation à Bissau. Il avait demandé aux partis d'exercer le maximum de retenue. Deux mois après l'élection présidentielle du 29 décembre, deux chefs d'État rivaux ont été investis en Guinée-Bissau, un pays qui a connu 4 coups d'État et 16 tentatives de putsch depuis son indépendance en 1974.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'épidémie de coronavirus continue de provoquer inquiétude et mesures d'exception dans le monde, privant d'école près de 300 millions d'élèves dans 13 pays, vidant les stades et les lieux de culte. Pour sa part, l'OMS regrette que certains pays n'en fassent pas assez pour combattre l'épidémie. Le point avec Nani Talani.
Le nombre de cas de contamination dans le monde flirte avec les 100 000. 85 pays et territoires ont relevé au moins 97 510 personnes infectées et parmi elles, 3 346 en sont mortes selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 17h temps universel. Aux États-Unis, ce sont 8,3 milliards de dollars que le Congrès a prévus pour financer un plan d'urgence de lutte contre le coronavirus. 3 nouveaux cas ont été recensés jeudi soir dans l'État du Maryland, aux portes de la capitale fédérale Washington DC, jusqu'à présent encore épargné officiellement. Et un nouveau foyer de cas suspects s'est déclaré à bord d'un paquebot de croisière au large de San Francisco. Le vice-président Mike Pence, chargé de coordonner la lutte contre le coronavirus, a visité l'État de Washington, le plus touché par l'épidémie, avec plus de 70 cas et 11 morts. Plus de 180 personnes ont été contaminées sur le sol américain par le COVID-19, qui y a fait au moins 12 morts selon l'AFP.
Aux États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren, dernière femme en lice, a décidé d'abandonner la course à la Maison-Blanche. Les primaires démocrates se joueront donc entre Bernie Sanders et Joe Biden. Claire Morin-Gibourg.
So, I announced this morning that I am suspending.
Je suspends ma campagne, je ne me présenterai pas à la présidence en 2020, a déclaré Elizabeth Warren hier devant son domicile dans le Massachusetts. Le soutien de cette ancienne professeure en droit, pourfendeuse de Wall Street, est désormais très courtisé. Madame Warren a précisé qu'elle voulait réfléchir avant de déclarer son possible ralliement à Bernie Sanders, avec laquelle elle partage beaucoup d'idées très à gauche, ou à l'ex-vice-président modéré Joe Biden, qui a récupéré sa position de favori après le Super Tuesday. Elizabeth Warren avait été la première à entrer dans la course à la Maison-Blanche dès décembre 2018. « Je continuerai à me battre pour ceux qui travaillent dur à travers le pays et qui se sont sans cesse retrouvés perdants », a-t-elle affirmé.
En Syrie, entrée en vigueur aujourd'hui de l'accord annoncé par la Russie et la Turquie sur un cessez-le-feu dans le nord-ouest du pays. Il vise à mettre un terme aux combats intenses qui ont provoqué une catastrophe humanitaire et fait craindre un affrontement entre leurs armées. L'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état d'un calme relatif dans la province d'Idleb, marqué notamment par un arrêt des frappes aériennes russes et syriennes. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute. Eco et Kiabadou.
Les compagnies aériennes mondiales pourraient enregistrer cette année jusqu'à 113 milliards de dollars de pertes en raison de l'épidémie de coronavirus, a estimé ce jeudi l'Association internationale du transport aérien. Cette estimation ne prend pas en compte les pertes du transport de fret. La 8e édition de l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain prévu à Abidjan les 9 et 10 mars 2020, est reportée à une date ultérieure en raison du coronavirus, a annoncé Amir Benyamed, président de ce forum économique. Côte d'Ivoire toujours, le pays ne figure pas encore parmi les grands producteurs d'or du continent, mais affiche de solides ambitions en la matière avec des résultats prometteurs ces dernières années. La production aurifère d'environ 30 tonnes en 2019 est 4 fois plus qu'il y a 10 ans et attire de nouveaux opérateurs. La production est passée de 7 tonnes en 2009 à 24,5 tonnes en 2018, un record légèrement revu à la baisse par rapport aux objectifs que s'était fixé le gouvernement, qui avait tablé sur une production de 26 tonnes. Et ce à cause de grèves à répétition sur le site de Tongon, dans le nord, exploité par le géant canadien Barrick Gold. Le port autonome de Kribi au Cameroun fait de la prospection commerciale en Centrafrique. Une délégation du port autonome de Kribi dans le sud du Cameroun s'est rendue récemment à Bangui pour rencontrer le Conseil centrafricain des chargeurs. À l'issue de 2 jours d'échange, un protocole d'accord a été signé. Le PAC s'est engagé à concéder à la RCA un rabattement de 30% sur les marchandises, 25% sur l'aconnage et 75% sur les pénalités de stationnement.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
8 membres d'une équipe de football morts dans un accident en Guinée.
Oui, 8 membres de l'Étoile de Guinée, club de 2e division, dont des joueurs et du personnel d'encadrement ont péri hier dans l'accident de leur minibus. 19 personnes ont été blessées, dont 17 grièvement. L'accident s'est produit à Timbo, dans le centre du pays, alors que l'équipe se rendait à Cancan pour jouer ce samedi contre Karifa Mouria FC pour le compte de la première journée de la 2e division. D'après le ministère de la Sécurité, le véhicule a dérapé par excès de vitesse pour finir sa course sur un tronc d'arbre.
Litige TP Mazembe Ben Malango Raja de Casablanca, la FIFA a tranché.
Oui, la FIFA a ordonné à Ben Malango et à son club, le Raja Casablanca, de verser une indemnité compensatrice de plus de 296 000 dollars au tout-puissant Mazembe, l'ancien club du joueur congolais. Le club de Lubumbashi contestait le transfert de Ben Malango au Raja à l'été 2019, estimant que le joueur était toujours sous contrat avec les Corbeaux. Le tout-puissant Mazembe réclamait 5 millions de dollars, une suspension de 6 mois du joueur et une interdiction de recrutement du Raja. Dans un communiqué, le tout-puissant Mazembe a dit qu'il va saisir le tribunal arbitral du sport. Les deux clubs s'affrontent ce samedi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller au Maroc, on se rappelle, le Raja s'est imposé 2-0, dont un but justement de Ben Malango contre ses anciens coéquipiers.
Athlétisme, le Maroc et le Nigeria sous surveillance de l'antidopage.
Le Maroc et le Nigeria ont été ajoutés à la liste des pays présentant le plus haut risque de dopage par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Les pays sont classés par l'AUA en 3 catégories, A représentant le plus haut risque de dopage, B et C pour le risque le plus faible. Le Maroc et le Nigeria ont rejoint la catégorie A. Les nations classées dans cette catégorie doivent s'assurer que chacun de leurs athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques de 2020 ait subi au moins 3 tests antidopage inopinés hors compétition dans les 10 mois qui précèdent les Jeux.
Basketball, Stephen Curry pense pouvoir être du voyage pour Tokyo.
Oui, le meneur de Golden State espère participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, même s'il a manqué 58 matchs de son équipe à cause d'une blessure à une main. Il y a encore beaucoup de temps entre maintenant et les JO. Ils ont toujours été dans mon viseur à assurer le triple champion NBA. Stephen Curry, 31 ans, s'est fracturé la main gauche le 30 octobre. Il n'a toujours pas rejoué avec les Warriors en NBA. Nous restons en basketball pour parler de la NBA. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Eh bien, Yacouba, Steph Curry a recommencé à jouer hier soir lors d'un match contre les Toronto Raptors. La vedette des Golden State Warriors a marqué 23 points et a enregistré 7 rebonds et 7 passes décisives. Ce qui est très bon pour un premier match, mais son équipe a fini par perdre face aux champions en titre 121 à 113. Autre match, eh bien, les LA Clippers, très bonne équipe de Los Angeles, et Houston, c'est 120-105 le score. Denver et Charlotte, 114-112. Philadelphie et Sacramento, 125-108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Selon la justice burkinabé, le premier ministre français Édouard Philippe a signé un décret d'extradition de François Compaoré, frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. L'homme est inculpé pour incitation à assassinat dans l'affaire de notre confrère Norbert Zongo, tué le 13 décembre 1998. François Compaoré avait été interpellé le 29 octobre 2017 à Paris suite au mandat d'arrêt international lancé par Ouagadougou afin d'être placé sous contrôle judiciaire. Au micro de Bagassi Koura, Benewende Sankara, avocat de la famille du journaliste Norbert Zongo.
Tant que François Compaoré ne sera pas déféré entre les mains des autorités judiciaires burkinabènes, nous restons très prudents, mais plutôt vigilants. Sinon, on peut dire qu'au niveau des procédures judiciaires qui ont été engagées, pour nous, c'est une bouffée d'oxygène, en ce sens que le décret n'est qu'un acte administratif qui traduit ici la volonté de l'exécutif, donc des autorités politiques françaises, conformément d'ailleurs du chef de l'État, M. Emmanuel Macron, à ne pas faire obstacle à la justice et de remettre purement et simplement M. François Compaoré, conformément aux accords d'extradition qui existent entre la France et le Burkina Faso, afin que le droit soit dit dans le dossier du journaliste Norbert Zongo, où il est reproché justement un certain nombre de charges que le juge d'extradition burkinabé a formellement inculpé M. François Compaoré. Donc, c'est un acte administratif. Je ne sais pas ce que M. François Compaoré a comme moyen de défense pour faire échec à cette décision. Mais en tout cas, nous sommes confiants, d'une manière ou d'une autre, qu'il sera purement et simplement extradé dès le 19 octobre.
Est-ce qu'on sait la prochaine étape?
En principe, je crois savoir que le décret impose à l'autorité, notamment au ministre de la Justice français, de mettre tout en œuvre pour exécuter cette décision qui a sorti ce décret à partir de 6 conditions qui sont humaine simplement respectable par la partie burkinabé. Donc, si le ministre de la Justice française décide sous le juge du Premier ministre, donc avec l'engagement du chef de l'État, la France veut bien procéder dans l'immédiat, M. François Compaoré doit être extradé sans délai vers le Burkina Faso.
Est-ce que la justice burkinabé est prête pour ces procès-là, que c'est quand même des procès qui ont une grande sensibilité politique?
Vous savez, nous sommes, j'allais dire, enthousiastes de pouvoir continuer ce dossier. La justice burkinabé est prête depuis 20 ans. C'est un dossier qui suit l'ensemble des procédures en respectant les standards internationaux. Vous savez bien que M. François Compaoré, quand il a été arrêté à Paris, donc en France, il y a eu tous les avocats, toute une brochette d'avocats qui l'ont défendu. Le Burkina Faso s'est conformé à l'ensemble des prescriptions au plan international pour qu'il n'y ait aucun doute. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la pièce maîtresse du dossier du journaliste Norbert Zongo qui a été gravement assassiné, et au niveau de la défense, aussi bien des avocats, des particuliers, que, en tout cas, au niveau du François Compaoré et du tout ce qui sont poursuivis, nous sommes très prêts.
Monsieur Maître Benewende Sankara, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Et maintenant, pour terminer, 60e anniversaire du service francophone de la Voix de l'Amérique, où une cérémonie commémorative est prévue ce vendredi, ici même au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. À cette occasion, des témoignages. Ce matin donc, des témoignages de collègues du service, le rédacteur en chef Idriss Fall, Henri Francisque, journaliste, et Michelle Joseph, réalisatrice et présentatrice à VOA Afrique, témoignage recueilli par Arzuma Compaoré. D'abord, Idriss.
Idriss Fall est avec nous pour le sujet américain du jour. Idriss.
Les autorités judiciaires américaines ont l'intention...
Je suis arrivé ici en décembre 1992, voilà. J'étais parmi les plus jeunes, Idriss Adja vous le dira. J'avais un carnet d'adresses très, très fourni.
Aujourd'hui, l'Afrique centrale, au micro Ferdinand Ferrella.
On avait lancé une émission qui s'appelait « Aujourd'hui, l'Afrique centrale ». Que j'ai animée avec Ferdinand Ferrella, qui était très écouté partout au Congo. Et par la suite, on avait commencé à faire un autre show qui s'appelle Aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. 2009, j'ai interviewé Abdoulaye Wade ici, au Willard. Et dans l'interview, Abdoulaye Wade me dit que lui, il est candidat pour un troisième mandat. Je sors de l'hôtel, j'appelle le grand Idriss Seydou Dia, qui était mon chef. Il me dit non, tu ne passes pas par le bureau, tu vas directement au studio 13, tu vas mettre ça sur les ondes. Cale ton truc. Et ils m'ont pris dans le journal et on a balancé ces trucs. Le lendemain, il y a 45 agences de presse dans le monde qui ont voulu avoir ce son-là où Abdoulaye Wade, depuis Washington, déclare qu'il est candidat à la présidence pour un troisième mandat et il sera battu par un certain Macky Sall.
Du blues ou jazz.
Notre invité. Entre mon arrivée aujourd'hui, c'est des époques différentes, c'est un public différent. C'est bien parfois que la radio puisse faire de l'entertainment, que les gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles puissent même avoir le sourire. Et je pense que c'est ça qui a changé maintenant et que je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. C'est des défis quotidiens, en sens que si ce qu'on fait n'est pas bon, les gens, ils tournent le bouton. Je pense que les gens, jusqu'à présent, ont beaucoup de respect pour cette radio et il faut garder ce standard très, très élevé.
Passé. Une excellente fin de soirée, sans blues, bien sûr.
Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique. Maintenant, notre collègue Henri Francisque.
Avec vous, Henri Francisque, où en sommes-nous dans cette convention républicaine, Henri?
Eh bien, c'est le point culminant de la convention aujourd'hui, le jour J, le jour où le sénateur de l'Arizona, John...
Je m'appelle Henri Francisque, je suis arrivé à la Voix de l'Amérique en août 1979.
Comment oublier mon baptême du feu, ma première participation à une émission jumelée, surtout quand il s'agit de la Radio Nationale d'Haïti, mon pays d'origine. C'était la première fois que je passais en direct. Vraiment, j'ai eu très chaud ce jour-là.
Mais après la chute du président Mobutu, en 1997, j'ai été pendant un certain temps au Rwanda, au Burundi, dans l'est du Congo, qui déjà à l'époque était troublé par toutes sortes de violences. Et j'ai visité des camps de réfugiés où il n'y avait pratiquement que des femmes. Et c'était l'absence des hommes qui vous surprenait. Et ça m'avait frappé parce qu'on pouvait sentir qu'il y avait un grand drame qui s'était produit dans ce pays. J'ai pris finalement ma retraite en 2009. Mais après près de 4 ans de repos, je suis revenu à la Voix de l'Amérique à la demande de mes anciens collègues pour m'occuper d'un programme spécial sur la République centrafricaine après les événements de Bangui, quand il y avait des exactions contre surtout la communauté musulmane. Quand on est journaliste, on le reste en fait toute la vie. Donc on est toujours intéressé à ce qui se passe. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a pas mal de jeunes journalistes qui prennent la relève et qui vont remplacer les anciens. Et je sens le même attachement à l'information, à des nouvelles qui sont correctes et vérifiées, confirmées. Je souhaite que le service francophone de la Voix de l'Amérique ait une longue vie.
Henri Francisque. de VOA Afrique. Enfin, une voix qu'on n'a plus besoin de vous présenter, la réalisatrice et présentatrice Michèle Joseph.
Au micro, Michèle Joseph, dans le cadre du mois de l'histoire africaine-américaine, consacré à la période qu'on appelle Harlem Renaissance.
Il fait partie. Je suis venue ici en 86 au départ. J'étais en gros une productrice qui regroupait les programmes en français et ensuite je faisais une présentation particulière et puis on envoyait ça à nos affiliés. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je dirais que chaque décennie a été très différente. D'abord c'était radio. Ensuite la grosse transformation dans les années 2000, début 2000, c'était de passer au numérique avec les bandes magnétiques, etc. On allait en studio, c'était toute une élaboration, un spectacle, il fallait avoir la musique, les disques, c'était comme une mise en scène. Et tout d'un coup, on se trouve dans le numérique et on fait tout soi-même. Donc cet aspect-là, ça m'a beaucoup manqué. Quand on travaillait sur aujourd'hui l'Afrique centrale, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de problèmes au Congo. L'époque où Tshisekedi était opposant. L'équipe de nuit, on l'a appelé très tôt le matin et on a enregistré ce qui venait de se passer. Je crois qu'il y avait eu une bombe ou un attentat sur son domicile et donc on entendait les bruits, les cris, etc. Et donc au montage, après, je vais à mon rédacteur en chef, Idrissa Sédoudia à l'époque, et je lui dis, mais ces sons-là, on peut s'en servir, on peut peut-être ouvrir le programme avec, ce sont de vrais sons. Et c'était extraordinaire, c'était le premier teaser en quelque sorte.
C'est en compagnie de la fameuse chorale du Tabernacle de Brooklyn que nous ouvrons ce spécial gospel.
Je me rappelle un moment très marquant, c'était Ferdinand Ferrella était revenu du Rwanda et il avait fait une tournée dans un orphelinat avec toutes sortes de sons, d'interviews, etc. Il m'a dit, Michèle, tiens, je ne sais pas quoi faire avec. Prends ça et essayons de faire un dossier avec ça. Et j'adorais ça. Parfois, on rentre chez soi et on dit, oh mon Dieu, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux vraiment continuer de voir tout près tout ce qui se passe, que ce soit beau, que ce soit laid, que ce soit dur? C'est un privilège de pouvoir faire partie de cette équipe qui raconte ce qui se passe, qui témoigne de ce qui se passe d'une façon équilibrée. Un vœu pour les 60 ans du service VOA Afrique, c'est de pouvoir continuer cette amitié, de pouvoir continuer ce trajet qu'on a commencé ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés qui ont été créées grâce à VOA Afrique, grâce à la Voix de l'Amérique. Ça doit continuer.
Et ça va continuer. Notre amie et collègue, la réalisatrice et présentatrice Michèle Joseph.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Cricata,
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.